Bonjour, aujourd'hui une nouvelle diffusion d'une émission datée du 19 décembre 2009 et qui était intitulée « L'art des mémoires et les mémoires politiques ».
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Dans l'ordre des mémoires, je crois que la chronologie n'est pas la vérité. C'est très simplement que si je veux faire un récit de ma vie, ce qui est essentiel échappera absolument. Alors, il s'agit naturellement pour moi d'une certaine chasse. Je ne peux attraper mon gibier qu'avec des méthodes déterminées. Ces méthodes sont contre la chronologie. À partir du moment où je ne vis ni
le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Des cinq présidents de la Ve République antérieure à l'actuel chef de l'État, seul jusqu'à présent, Valéry Giscard d'Estaing a pu achever la publication de mémoires consacrées à l'exercice de la plus haute charge. Les autres ont été empêchés ou interrompus par la mort. On n'en a donc accueilli qu'avec plus d'intérêt les souvenirs de Jacques Chirac, consacrés à l'histoire de sa vie privée et publique jusqu'à son accession à l'Élysée, un ouvrage dont les critiques ont évoqué la simplicité dans le ton, la franchise dans certaines confidences, l'alacrité dans divers portraits. Le succès en est considérable en librairie, à telle enseigne qu'il m'a paru intéressant de réfléchir à l'évolution d'un type d'ouvrage fort ancien, celui des mémoires des politiques. Mon invité ce matin, Jean-Louis Janel, maître de conférence à la Sorbonne, a publié voici quelque temps, dans la prestigieuse Bibliothèque des idées de Gallimard, un livre original consacré au déclin puis au renouveau d'un genre. De ce déclin et de ce renouveau, les ressorts méritent assurément d'être éclairés, sans qu'on s'interdise bien sûr de remonter plus loin en arrière, jusqu'à Jules César peut-être, Richelieu et Chateaubriand en tout cas. Quelles sont donc les conditions, collectives et individuelles, qui permettent que fleurissent, entre histoire et littérature, des contributions majeures d'acteurs qui sont aussi des témoins, contributions à la connaissance d'une époque et à sa perpétuation dans les esprits et dans les cœurs, qui permettent que se dessinent ainsi, dans le meilleur des cas, des lignes de force traçant un chemin dans le brouillard de ce qui nous apparaît parfois comme un trop-plein confus de passé.
J'avais dit c'est fini et notre amour est mort pour moi. Je parlerai sans nul émoi de ce rêve terni sur quoi viendra l'oubli. Je répétais jamais quand j'ai trouvé, je l'ai béni. Ces souvenirs, ces chers secrets, lettres d'amour, feuillets que le temps a jauni. Ce soir, la chanson du passé dans mon cœur vient chanter encore. Je sens le refrain me bercer et par lui mon chagrin s'endort. Reflet d'un espoir effacé, fantôme charmant des beaux jours. Ce soir, la chanson du passé me redit mes bonheurs trop. Tout est resté vivant, je te revois comme autrefois. Au fond de moi j'entends ta voix s'égayer par instant d'un beau rire d'enfant. Vers toi je tends les bras reviens, ta place est toujours là. Et quand chez moi tu rentreras, simplement tu diras, oui c'est moi, me voilà. Ce soir, la chanson du passé dans mon cœur vient chanter encore. Je sens le refrain me bercer et par lui mon chagrin s'endort. Reflet d'un espoir effacé, fantôme charmant des beaux jours. Ce soir, la chanson du passé m'a rendu mon ancien amour.
Jean-Louis Janel, bonjour.
Bonjour.
C'était la chanson du passé, une chanson de Damien, une chanson du début des années 30. Je vous ai peut-être un peu surpris en ouvrant notre conversation de la sorte, mais il me semble que ce n'est pas exagéré, enfin vous allez nous le dire, de considérer qu'à certains égards, cette chanson d'amour sur l'amour envolé peut métaphoriquement représenter un certain nombre des sentiments qui sont ceux des hommes d'action quand ils tiennent la plume au déclin de leur âge.
Alors peut-être des hommes d'action, en tout cas de toute personne qui écrit sur son existence. Je pense que l'intérêt de cette chanson, c'est de poser la question de la distinction entre les différents genres, de ce qu'on pourrait appeler les récits de soi ou les écrits à la première personne. C'est une question très compliquée. En général, c'est celle qu'on me pose toujours. Très souvent.
Je suis content d'être banal.
Pas banal, parce que c'est une question tout à fait importante. Non, pas du tout. C'est une question importante parce que chacun de nous a le sens, lorsqu'il prend n'importe quel des textes qui peuvent être concernés, d'une difficulté à définir, à assigner un genre en particulier.
Cette distinction est fondamentale dans votre réflexion. Autobiographie d'un côté, mémoire de l'autre. Mémoire dont je rappelle d'entrée de jeu que c'est un substantif masculin.
Un substantif masculin que l'on voit dans le féminisme de plus en plus.
Dans ce sens, par erreur. Mais pas à ce micro. Alors expliquez-nous cette distinction qui n'est pas immédiatement évidente pour tout le monde.
Sous le terme mémoire, on désigne à la fois une catégorie, donc une forme abstraite en quelque sorte, et des textes qui sont souvent intitulés mémoire, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre eux. Il ne faut pas confondre les deux. Il y a une catégorie qui est une forme abstraite qui existe en soi, en quelque sorte, et qui peut être définie assez simplement. Les mémoires ont vocation de raconter une existence dans sa condition historique, contrairement à l'autobiographie où un individu vise à la connaissance de soi, vise à la reconstitution de l'histoire, de la formation d'une personnalité.
On fait toujours aisément le départ entre l'un et l'autre ?
Dans l'absolu ou dans l'abstrait, en quelque sorte, entre les deux catégories, oui. Pour chacun des textes, non. Il peut y avoir, en quelque sorte, il y a une plasticité très grande des textes. Et Chateaubriand lui-même, d'ailleurs, commence par un récit d'enfance qui relève du genre d'autobiographie, qui est hérité, en quelque sorte, de Rousseau et qui relève de l'autobiographie, mais continue par ce qui relève bien des mémoires. Ce que l'on pourrait appeler mémoire, ce serait, en quelque sorte, un texte, donc le récit d'une vie dans sa continuité historique et qui vise à l'accord des contemporains ou des générations à venir sur la représentativité historique et la rectitude morale d'un parcours de vie. Mais c'est le parcours de vie qui importe.
On peut se fonder sur la définition qu'en donnait déjà Furtière dans son célèbre Absolument. Dictionnaire du XVIIe siècle, quand il disait « Mémoire se dit des livres d'historiens, écrits par ceux qui ont eu part aux affaires ou qui en ont été témoins oculaires ou qui contiennent leur vie ou leurs principales actions ».
Absolument, c'est la définition la plus canonique, la plus simple, mais aussi la plus efficace. On voit très bien que, d'une manière très générale, autobiographie et mémoire se distinguent très simplement. Pour chacun des textes, les choses peuvent être beaucoup plus compliquées. Il peut y avoir ensuite des contraintes, des distinctions formelles. Dans cette chanson que nous venons d'écouter, il me semble qu'il y a un autre genre qui pourrait être représenté. Si l'autobiographie, c'est toute la partie amour passé, le cœur, les sentiments, les mémoires, ce serait cette formule que l'on entend qui est très belle, « Oui, c'est moi, me voilà, oui, c'est moi, me voilà », c'est vraiment une sorte de définition en soi du genre des mémoires, c'est-à-dire c'est le genre de l'assomption de soi, de la statification de soi, le fait de se montrer dans la complexité, dans l'exhaustivité de son existence, d'un parcours de vie, devant autrui et porté au jugement d'autrui. Mais il y aurait un troisième genre, en quelque sorte, qui serait celui du souvenir. Ou de la chronique, c'est-à-dire la chronique ou le souvenir, c'est le genre d'une sorte d'état social passé qui est en train de disparaître et dont l'on veut rapporter les petites faits, les anecdotes, des portraits, toute une série comme ça de ces beaux jours passés que l'on a perdus et que l'on cherche à retrouver dans un rapport un peu nostalgique à ce passé.
Je vous suis donc, il y aurait une catégorie qui serait celle de l'investigation sur soi-même, dans ce que voilà. Le soi-même peut avoir d'unique, tout une autre fait. Où on rapporterait ce qu'on dit de son itinéraire, de son histoire, à l'entièreté d'une époque, et puis d'une époque au sens le plus noble, le plus historique du terme, et puis une troisième catégorie qui serait également propre à être élargie, mais qui concernerait la vie quotidienne.
Moi, la vie quotidienne, qu'un état passé, une époque, un état social, dont on a la nostalgie et qui est en train de disparaître et que l'on cherche à restituer par une sorte de récit où l'importance touche moins à la vie de l'individu qui rapporte cet état passé. Ça peut prendre la forme d'un journal ou de petits textes qui ont été écrits sous forme de chroniques et qui sont publiés plus tard. Donc, où la question est moins celle de l'individu, qu'il soit autobiographique, donc personnel, intime, ou qu'il soit en majesté, en quelque sorte, ces vies majuscules que sont les mémoires, mais simplement un individu qui se fait témoin d'une sorte d'époque qu'il restitue à travers son existence.
Alors, une fois le terrain ainsi déblayé, concentrons, si vous le voulez bien, Jean-Louis Janel, notre attention sur les mémoires politiques. Et ces mémoires, ceux de ces mémoires que vous évoquez, que vous célébrez, sont ceux qui font une sorte de synthèse entre histoire et littérature, qui se situe à la rencontre. À cet égard, d'ailleurs, vous avez le front de contredire André Gide, si je vous ai bien lu,
oui.
Qui disait dans un extrait de son journal à propos d'un docteur qu'il avait rencontré, que celui-ci cherchait à s'instruire dans la littérature. Ça l'avait choqué, non ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est un cas très intéressant parce qu'on voit ce qui provoque une sorte de déclin des mémoires durant la première moitié du XXe siècle, à ce moment-là, lorsqu'on lit Gide, effectivement. Historiquement, les mémoires sont vraiment à l'articulation de la littérature et de l'histoire. C'est leur singularité, c'est leur spécificité.
On pense à Jules César,
Alors, bien sûr, César, mais Comines, à partir du XVIe siècle, Ray, Saint-Simon, c'est un texte qui se veut un texte de création, mais qui a vocation historique, qui en quelque sorte... Le rapport du mémorialiste à l'historien est toujours absolument déterminant à toutes les époques. C'est peut-être l'un des éléments clés. Le mémorialiste est toujours dans un rapport de concurrence avec l'historien, dont il conteste les attendus, dont il conteste le caractère officiel, officieux, oublieux des contingences et des responsabilités de chacun, ou en quelque sorte observant la bataille de trop haut, de trop loin pour comprendre les motivations des uns et des autres. Donc il y a ce rapport de concurrence, mais en même temps un rapport de soumission aussi, et c'est un point important.
C'est-à-dire ?
Le mémorialiste se veut au service des historiens futurs, peut-être pas des historiens présents, mais des historiens futurs. Il se veut lui-même, tout en se déniant en quelque sorte cette autorité, cette possibilité. On sait très bien qu'il y a une sorte de pacte mémorial au début de chacun des textes, et l'un des attendus de ce pacte mémorial, c'est précisément de se refuser à être historien, de ne pas se reconnaître cette autorité.
Je voudrais vous faire entendre un extrait d'une interview de Michel Debré au moment de l'apparition du premier tome de ses mémoires en octobre 1984. C'est un ouvrage qui s'appelait « Trois républiques pour une France ». L'intervieweur est Philippe Calonni.
Michel Debré, j'ai entendu il y a à peu près 4 ans, quelqu'un que je ne citerai pas, que vous connaissez bien, qui a dit « Debré n'écrira jamais ses mémoires, c'est pas possible, il a trop de choses à dire ou à cacher ».
Oh, je n'ai rien à cacher, j'ai beaucoup de choses à dire, et je n'ai rien à cacher. D'ailleurs, ce qui vous a été dit est contradictoire.
Oui, bien sûr, contradictoire, ou ça peut éventuellement être la même chose, peut être une sorte de pléonasme.
En tout cas, j'ai choisi de dire.
Alors, justement, vous commencez ce premier tome de vos mémoires, « Trois républiques pour une France », et on va revenir sur ce titre fort significatif, par « Écrire ses mémoires est une aventure ». Comment avez-vous travaillé ?
Il n'est pas douteux qu'il y a une différence entre ce premier tome et les tomes suivants, si je les écris. Le premier tome a trait à une époque où, par la force des choses, j'avais peu d'archives. On est jeune, on ne pense pas à écrire ce que l'on fait. Puis, la période de la résistance est une période de discrétion totale. Alors que les autres tomes, qui sont les tomes de ma vie publique après 1948...
Ce sera plus facile.
Seront à la fois plus faciles et plus difficiles, car il faudra lire des archives nombreuses, relire ce que j'ai écrit.
Ce premier tome, on va vous passer un peu d'eau ou un peu de jus d'orange. Ce premier tome s'arrête en 1945-46, c'est bien ça, hein ?
Non, il s'arrête à une date très précise, qui est l'année 1946. Qui est une année capitale, non seulement pour moi-même, mais qui est une année capitale pour la France.
C'est le départ du général.
C'est le départ du général. En vérité, ce premier tome, c'est d'abord des souvenirs personnels. À tort ou à raison, et je le fais, je crois, avec une relative discrétion, il est bon, quand on commence ses mémoires, de se situer soi-même, à la fois avec ses attaches familiales, avec son éducation, ce qu'on appelle aujourd'hui son identité. Mais en même temps, il se trouve que cette période que je raconte, qui est celle de la débâcle de 1940, de l'occupation, de la résistance, de la libération, est aussi une aventure collective. Et j'ai souhaité, au nom d'un certain nombre d'amis, de camarades, les uns disparus, les autres ont survécu, retracer pour les jeunes générations ce qu'ont été ces périodes terribles de 40 et puis les années suivantes. Par ailleurs, c'est un plaisir d'écrire, à n'en pas douter. J'évoquais Stendhal tout à l'heure. Stendhal écrivait le matin. Il avait raison. On écrit le matin dans le silence des heures matinales. Mais en même temps, j'ai considéré que c'était un devoir.
Michel Debré, donc, octobre 1984. Il me semble, Jean-Louis Janel, qu'on voit assez bien les deux types de souvenirs ou de mémoires possibles.
Oui, tout à fait. Souvenirs personnels et souvenirs collectifs. Alors, c'est intéressant parce que ce sont des mémoires qui ne sont pas immortelles. Ils se situent très clairement dans la filiation gaullienne. Trois républiques pour une idée, tout est là, dans ce désir d'unité. Et en même temps, ce titre est une sorte aussi de définition du genre même, cette espèce d'articulation de l'intimité du collectif. Et cette idée qu'une vie individuelle pourrait être représentative, pourrait servir de repère pour comprendre une époque. Le mémorialiste, c'est celui qui propose son parcours d'existence comme moyen de comprendre le passé récent, les 20, les 30 dernières années récentes. Donc il y a là une espèce de projet un petit peu fou de Paris, et dans cette espèce de va-et-vient entre le personnel, et non pas l'intime forcément, personnel ne veut pas dire forcément intime, et le collectif, il y a une tentative d'articulation des deux qui est quelque chose de tout à fait singulier, un pari presque à chaque fois, pas toujours réussi, et c'est le cas par exemple de ce texte.
Il y a un homme que Michel Debré, comme d'autres, citait très volontiers, qui était naturellement le Chateaubriand des mémoires d'outre-tombe. Mmh. Et certains ont dit que c'était au fond le dernier cas de mémoire qui se situe vraiment, jusqu'à l'exception de Gaulle, nous y viendrons, le dernier cas de mémoire s'affirmant comme vraiment répondant à la définition de Furetière.
Tout à fait. Il est vrai que dans les études qui sont menées aujourd'hui sur les récits de soi, le terme mémoire est très peu utilisé. Et mon idée était de montrer que, contrairement à ce que l'on pense, le genre n'a pas duré du XVIe siècle jusqu'à Chateaubriand, qui en serait la fin en quelque sorte, à la fois l'apothéose mais aussi la fin, que le genre a perduré, ne serait-ce que dans le très grand nombre de textes qui sont publiés, mais aussi la valeur des textes qui sont publiés. Ce sera le cas avec De Gaulle et Beauvoir. De Gaulle, Beauvoir ou Malraux. Et De Gaulle, à mes yeux, n'est pas une exception, il est celui qui permet le renouvellement du genre. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi bien chez De Gaulle que chez Malraux, il y a toujours un hommage rendu discret, mais très présent, une sorte de présence continuelle du modèle de Chateaubriand.
Explicite ou tacite.
Et ne serait-ce que dans la relation d'ailleurs entre eux, De Gaulle et Malraux eux-mêmes. Il y a ce rapport à la fois de concurrence, d'admiration et de d'hommage réciproque entre le grand écrivain et le grand homme politique qui se joue entre Malraux et De Gaulle, le même que celui qui s'est joué entre Chateaubriand et Napoléon. Donc il y a quelque chose qui se rejoue à ce moment-là.
Par rebond d'ailleurs rétrospectif successif, on pourrait observer que Chateaubriand lui-même avait cité Pierre de l'Étoile.
Tout à fait.
Pierre de l'Étoile, qui était un ami, un proche d'Henri IV, et qui disait, c'est Chateaubriand qui le cite, dans son journal, au lendemain de l'assassinat de son roi tant aimé, et ici, c'est Pierre de l'Étoile qui écrit, « Je finis avec la vie de mon roi, le deuxième registre de mes passe-temps mélancoliques et de mes vaines et curieuses recherches, tant publiques que particulières, interrompues souvent depuis un mois, par les veilles des tristes et fâcheuses nuits que j'ai souffertes, mêmement cette dernière, pour la mort de mon roi. Je m'étais proposé, ajoutait Pierre de l'Étoile, de clore mes éphémérides par ce registre, mais tant d'occurrences nouvelles et curieuses se sont présentées par cette insigne mutation que je passe à un autre qui ira aussi avant qu'il plaira à Dieu et me doute que ce ne sera pas bien long. » Et Chateaubriand observe que l'Étoile avait vu mourir le premier Bourbon et que lui a vu tomber le dernier, Charles X.
Le mémorialiste a conscience de se situer dans une tradition, dans une filiation, dans une espèce de continuité. Il en a conscience, et c'est un point important parce que c'est la singularité de ce genre. d'être en quelque sorte semblable à ce qui était pratiqué aujourd'hui, semblable à ce qui était pratiqué à l'époque depuis Comines, en quelque sorte. C'est un genre, l'un des seuls d'ailleurs, littéraire, vieux de pratiquement 5 siècles. Les attendus sont toujours les mêmes. Les manières de procéder, d'écrire, le genre ne se modifie pas dans l'absolu. Ce qui est intéressant, en quelque sorte, c'est que après Chateaubriand, le genre se perpétue, il connaît un déclin. Et ce déclin correspond à peu près à la Troisième République, pour des raisons très certainement politiques. Cette espèce de, il y a sous la Troisième République une espèce d'appropriation du pouvoir et des responsabilités du pouvoir par une classe politique.
Disons un personnel politique.
Et un personnel politique, tout à fait. Donc les mémoires publiées n'ont plus la grandeur qui était celle des mémoires napoléoniens ou d'autres.
Vous voulez dire que c'est trop collectif le pouvoir, il n'y a pas d'émergence de figure suffisamment haute.
Il n'y a plus d'émergence de figure qui pourrait faire en quelque sorte signe, qui pourrait servir de repère à une collectivité dont l'existence, dans la biographie en quelque sorte, pourrait marquer et servir de fil conducteur pour une période. C'est ce qui redevient possible avec la Seconde Guerre mondiale. Le genre des mémoires est le genre de la guerre civile. C'est le genre de la crise collective au cours de laquelle quelques personnalités émergent et servent, ça a été le cas en Angleterre avec Churchill, c'est le cas en France avec De Gaulle et d'autres, bien sûr, au cours de laquelle quelques personnalités émergent et permettent en quelque sorte, grâce à la continuité de leur vie, de restaurer une continuité dans un moment de crise collective, donc de coupure, de rupture nationale.
Donc votre thèse, contrairement par exemple à ce que disait Pierre Nora dans sa contribution à ses propres lieux de mémoire, sur les mémoires d'État, il pensait que sauf De Gaulle, pratiquement le genre était tari. Après Chateaubriand, vous nous dites autre chose, et pourtant nous allons écouter André Malraux, qui, au moment où il publie « Les anti-mémoires », le titre est intéressant et significatif dans notre réflexion ce matin, quand il publie « Les anti-mémoires », André Malraux qualifie son entreprise de la sorte au micro de Pierre de Boisdeffre. On est le 25 septembre 1967.
André Malraux, après 10 ans de silence et 9 ans d'exercice du pouvoir, vous revenez à la littérature pour publier un livre « Anti-mémoires ». Mais pourquoi ce titre « Anti-mémoires » ?
Naturellement, par opposition à la mémoire. D'une façon générale, les lecteurs ont pris l'habitude de penser que mémoire signifie d'abord récit chronologique allant de la jeunesse à la mort et d'autre part confession. Les mémoires confessions ont eu surtout leur importance en un temps où la psychanalyse n'existait pas. Alors, ce qui m'intéresse, c'est quelque chose d'aussi différent de ce qu'on appelait mémoire qu'ont été les mémoires d'outre-tombe de leur temps. J'insiste un instant là-dessus parce que il semble qu'on ne se rende pas compte maintenant à quel point Chateaubriand a surpris. Reprenez les mémoires d'outre-tombe que vous connaissez certainement très bien. Vous constatez d'abord qu'il est relativement chronologique. Relativement seulement. Les livres sont ordonnés absolument comme il lui plaît. Ce qui est chronologique, c'est qu'évidemment, il commence par Combourg et il finit par Ouvrez-vous, portes éternelles. Mais pour le reste, il fait bien ce qu'il veut. D'autre part, quant aux confessions, il ne dit même pas que Pauline de Beaumont était sa maîtresse. Et tout ce qui se passe avec Madame Récamier, c'est d'une liberté absolue. Bien. Pour moi, je suis contre la chronologie. D'abord, il faudrait savoir pourquoi notre temps tout entier est contre la chronologie. C'est une question à laquelle je ne présente pas répondre, mais naturellement, elle se pose. Dans l'ordre des mémoires, je crois que la chronologie n'est pas la vérité. C'est très simplement que si je veux faire un récit de ma vie, ce qui est essentiel échappera absolument. Alors, il s'agit naturellement pour moi d'une certaine chasse. Je ne peux attraper mon gibier qu'avec des méthodes déterminées. Ces méthodes sont contre la chronologie. À partir du moment où je ne vise ni la chronologie, ni la confession, je ne peux créer qu'un malentendu si j'appelle mon livre mémoire. Ce qui m'intéresse essentiellement, c'est que peut-on faire jaillir de la rencontre du destin. Prenons le destin comme un silex. En définitive, ce qui fait que les mémoires ont cette existence particulière qui les insère dans la littérature, au lieu de les laisser tout simplement entre les mémoires des généraux et les mémoires des ministres des Affaires étrangères, c'est très précisément un procédé que j'appellerais sans aucun doute littéraire. Il s'agit tout de même toujours de faire une relation entre une réalité banale et quelque chose qui transcende cette réalité, quel que soit ce qu'on donne au mot transcender. Et dans ce cas-là, j'ai le sentiment tout à fait net que l'élément art joue un rôle décisif.
Alors Jean-Louis Janel, votre gibier, vous vous êtes fait figurer les anti-mémoires de Malraux pour démontrer que le genre a repris de la vitalité à partir de la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est votre thèse.
C'est le plus grand texte, c'est le plus grand texte avec celui de De Gaulle, dans un dialogue permanent avec De Gaulle et avec Chateaubriand. Et ici, cet extrait est particulièrement bien choisi, puisqu'on on le voit. C'est un texte très compliqué, celui des antimémoires. Au début de ce que dit ici Malraux, il s'oppose avec ce terme antimémoire à deux éléments. L'un, la chronologie, qui est effectivement l'une des caractéristiques essentielles des mémoires, et l'autre, les confessions, qui sont en fait qui relèvent de l'autobiographie. Mais le mot autobiographie n'existe pas à l'époque vraiment pour Malraux. C'est un terme qui est très présent en Angleterre, en Allemagne, mais qui met très longtemps à s'imposer véritablement dans les termes employés pour désigner ce type de texte en France.
Mépriser le petit tas de secrets dans la formule fameuse.
Il y a un mépris réel pour le petit tas de secrets chez Malraux.
Et puis il y a Freud, entre Chateaubriand et Malraux, il y a eu Freud, il y a eu la psychanalyse.
Alors, Malraux est tout à fait conscient de l'espèce de révolution qu'a représenté le passage, déjà à l'écriture de l'intime, le roman de l'intime aussi, celui de Proust, l'importance qu'a prise, alors ce qu'on appelle nous l'autobiographie, mais que d'autres, et même Gide lui-même appelait mémoire pour S'il grain ne meurt, par exemple. Donc il a conscience de la transformation qui est en train de se faire, c'est-à-dire de l'espèce de passage entre auparavant, et c'est encore le cas à l'époque de Malraux, le grand genre, ce qu'on pourrait appeler l'archigenre, celui qui contient tous les autres, c'est celui des mémoires. Et c'est encore le cas pour Malraux. C'est de cette manière-là qu'il désigne tous les textes, quels qu'ils soient, même ceux de l'intimité, ce que nous appellerions l'autobiographie. Après Malraux, effectivement, c'est le terme autobiographie qui va recouvrir tout. D'où le fait que les gens, lorsqu'ils parlent de mémoire, utilisent le plus souvent le terme autobiographie. Mais il y a là une sorte de confusion. Malraux, lui, est conscient de la complexité du champ, de tout ce qui s'y mêle et invente, et c'est l'une de ses singularités, c'est pour cela que si De Gaulle porte à sa perfection les attendus les plus classiques, les plus traditionnels des genres des mémoires, Malraux est, dans un dialogue permanent avec lui, celui qui le réinvente, en perturbe tous les attendus classiques, notamment l'attendu chronologique, la mise en scène de soi.
La vérité, parfois.
La vérité aussi, la vérité. Puisqu'il y a insertion de passages romanesques, de personnages
qui n'existent
pas. Par
exemple, la fameuse, on cite toujours à juste titre, c'est le récit de sa conversation au milieu des années 60 avec Mao Tse-tung à Pékin. On a d'un côté le récit par l'ambassadeur Pei, le télégramme, et d'autre part l'extrait des antimémoires. Évidemment, comment dire, il y a quelques distances entre les deux.
Distance très importante, de même que dans la conversation, cette fameuse conversation avec De Gaulle qui va être publiée après, sous le titre « Tous les chaînes qu'on abat ».
Un extrait, c'est une allusion à Victor Hugo.
Absolument.
C'est après une visite à Colombey en décembre 1969. Mais alors là, il est plutôt le Las-Cas de De Gaulle pour évoquer le mémorial de Sainte-Hélène, qui est une autre forme de mémoire.
Absolument.
Très efficace, évidemment, pour sculpter une statue Napoléon.
Absolument. Absolument. C'est-à-dire, c'est celui qui écrit à la fois par procuration, mais aussi par filiation, par hommage continuel au grand homme. Et dans un dialogue permanent avec ce que De Gaulle est en train de poursuivre, il poursuit ses mémoires, à savoir les mémoires d'espoir. Mais ce qui est intéressant dans cette espèce de dialogue avec le grand homme, c'est précisément cette tentative d'abandonner l'exactitude, l'impératif d'exactitude, qui est un impératif, évidemment, pour tout mémorial. De jouer avec lui et de le perturber en utilisant toute une série d'autres références puisées dans les livres, dans d'autres conversations, en recréant véritablement une conversation. Et Malraux est celui qui a le plus réfléchi à cette question. Il fait référence très souvent à la grande tradition rhétorique, celle des historiens latins par exemple, où il est possible de recréer. On n'a pas conservé les grands discours des grands chefs militaires que l'on reconstitue lorsqu'on est un historien, et pourtant on les reconstitue parce que ce sont des moments de bravoure qui marquent particulièrement les lecteurs. Et donc ce sont des moments très importants. Et il y a cette même idée chez Malraux, l'idée selon laquelle, qu'importe l'exactitude, l'individu va, et la vérité de l'homme politique, notamment de Gaulle ou de Mao, va apparaître à travers cette espèce de portrait reconstitué et fait d'une série d'imbrications, de toute une série d'éléments puisés un peu partout, dont tous sont vrais, mais pas exactement vrai dans les circonstances dans lesquelles ils sont replacés.
André Malraux, ami génial qui me couvre du quotidien, dit De Gaulle, pour le qualifier dans ses mémoires. Je suis un peu chagrin, tout en étant un peu obligé de vous suivre, du regard que vous jetez sur les mémoires qui perdurent de la Troisième République. Et il est vrai que cela devient plus une œuvre de spécialistes, je veux dire les mémoires mémoires d'ambassadeurs. Il y en a encore qui expriment beaucoup de talent littéraire, mais ce sont généralement des ambassadeurs de deuxième de deuxième rang. Oui. Il y a évidemment la comparaison qu'on peut faire, on va venir à De Gaulle, entre Clémenceau et De Gaulle. Oui. Clémenceau se refuse presque jusqu'à la fin, comme vous savez, à écrire des mémoires. Et finalement, s'il le fait, c'est dans les dernières années de sa vie, à l'extrême fin de son grand âge, s'il le fait, c'est pour répliquer à une sorte de nazarde que lui a porté le maréchal Foch à titre posthume par le truchement d'un journaliste. Et au fond, ce qui frappe, c'est que Clémenceau, quittant le pouvoir, s'intéresse à un livre de philosophie. Il n'a pas envie du tout de sculpter sa propre statue. Il s'intéresse à l'actualité. Alors que De Gaulle, quittant le pouvoir, dit « je n'ai plus rien à faire avec ce qui se passe ». Et il dit à Malraux de le répéter possible. Et désormais, il se consacre par ses mémoires à ce qu'il peut apporter à la suite des âges en donnant son regard sur l'époque qu'il a illustrée et qu'il exprime.
Ouais. Ce qui est intéressant dans cette comparaison, c'est que précisément, Clémenceau est celui qui juge que son témoignage n'apporterait rien, qu'il vaut mieux une sorte de silence un peu respectueux et qui préfère en quelque sorte prendre de la hauteur par la philosophie en écrivant un livre de philosophie.
Il brûle ses archives. En même temps, le titre du livre de Clémenceau, « Grandeur et misère d'une victoire », n'est pas tellement éloigné des mémoires de guerre.
Oui, tout à fait, mais c'est un texte qui est forcé, qui est commandé par l'actualité, qui est commandé par ses attaques via Recouli, ce journaliste, les attaques que Foch porte contre lui. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'est une lutte qui va se faire entre deux mémoires inachevées, enfin, mémoires pas vraiment inachevées de la part de Foch, ce sont des espèces d'entretiens qui sont tenus avec un journaliste, c'est dire un petit peu la retombée du genre. Foch est incapable d'écrire de véritables mémoires. Pétain a fait les siens qui ne sont pas immortels.
Enfin, la flèche du Parthe, dit Clémenceau, il lui envoie après sa mort. Maintenant, il est temps, d'en venir à De Gaulle qui marque cette histoire dont nous parlons, c'est-à-dire les mémoires des politiques au XXe siècle, d'une manière évidemment hors de pair, d'une manière sans pareil. Et pour faire entendre le général De Gaulle, je voudrais vous donner le portrait du maréchal Pétain tiré du premier tome des mémoires de De Gaulle, lu par Paul-Émile Débert, sociétaire de la Comédie-Française, en 1969. Voici Pétain. Philippe Pétain, vu par Charles de Gaulle.
Au maréchal Pétain, j'allais en silence adresser mon salut. Il me serra la main sans un mot. Je ne devais plus le revoir jamais. Quel courant l'entraînait et vers quelle fatale destinée? Toute la carrière de cet homme d'exception avait été un long effort de refoulement. Trop fier pour l'intrigue, trop fort pour la médiocrité, trop ambitieux pour être arriviste, il nourrissait en sa solitude une passion de dominer, longuement durcie par la conscience de sa propre valeur, les traverses rencontrées, le mépris qu'il avait des autres. La gloire militaire lui avait jadis prodigué ses caresses amères, mais elle ne l'avait pas comblé, faute de l'avoir aimé seul. Et voici que tout à coup, dans l'extrême hiver de sa vie, les événements offraient à ses dons et à son orgueil l'occasion tant attendue de s'épanouir sans limite. À une condition toutefois, c'est qu'il accepta le désastre comme pavois de son élévation et le décora de sa gloire. Il faut dire que de toute manière, le maréchal tenait la partie pour perdue. Ce vieux soldat, qui avait revêtu le harnois au lendemain de 1870, était porté à ne considérer la lutte que comme une nouvelle guerre franco-allemande. Vaincus dans la première, nous avions gagné la deuxième, celle de 1914-1918, avec des alliés, sans doute, mais qui jouaient un rôle secondaire. Nous perdions maintenant la troisième. C'était cruel, mais régulier. Après Sedan et la chute de Paris, il n'était que d'en finir, traiter et, le cas échéant, écraser la commune comme dans les mêmes circonstances Thiers l'avait fait jadis. Au jugement du vieux maréchal, le caractère mondial du conflit, les possibilités des territoires d'outre-mer, les conséquences idéologiques de la victoire d'Hitler n'entraient guère en ligne de compte. Ce n'était point là des choses qu'il eut l'habitude de considérer. Malgré tout, je suis convaincu qu'en d'autres temps, le maréchal Pétain n'aurait pas consenti à revêtir la pourpre dans l'abandon national. Je suis sûr, en tout cas, qu'aussi longtemps qu'il fut lui-même, il eût repris la route de la guerre dès qu'il put voir qu'il s'était trompé, que la victoire demeurait possible, que la France y aurait sa part. Mais, hélas, les années par-dessous l'enveloppe avaient rongé son caractère. L'âge le livrait aux manœuvres de gens habiles à se couvrir de sa majestueuse lassitude. La vieillesse est un naufrage. Pour que rien ne nous fût épargné, la vieillesse du maréchal Pétain allait s'identifier avec le naufrage de la France.
On retrouvera ce texte dans la Pléiade, et le fait que de Gaulle y soit entré est une sorte de ratification de cette idée qu'on peut être à la fois un héros politique et un grand écrivain.
Absolument. Absolument. Barthes a eu un texte très très beau, mais contre
très critique,
de Gaulle, bien
très
sûr,
critique.
Très critique à l'égard de Gaulle sur les Français, et très critique à l'égard des Français aussi, sur cette espèce de fascination des Français pour une conjonction de l'épée et de la plume. Le grand homme se doit, dans l'imaginaire français, d'être aussi un grand écrivain, et c'est là, en quelque sorte, la consécration suprême. C'est quelque chose qui perdure encore aujourd'hui, bien sûr, on a beaucoup loué Mitterrand, et Mitterrand s'y est beaucoup essayé aussi dans les textes qu'il a pu publier. À poser à l'auteur, à la fois au sage, au grand homme à la fin de son existence et à l'écrivain. Et
depuis, c'est plus discutable.
C'est plus discutable, bien sûr. Et la publication des mémoires de Chirac étonne aussi pour cela. Cette espèce de familiarité du ton étonne quelque peu. Elle n'est pas vraiment attendue d'un texte de mémoire où justement, et c'est la grande tradition gaullienne, on verrait plutôt une espèce, ce rythme ternaire qui est celui admirable de cet extrait que nous venons d'entendre. Cet art du portrait qui est un art extrêmement rhétorique.
Un rythme ternaire qui remonte à l'authentiquité, en fait.
Bien sûr, qui est celui de la rhétorique latine. Ce qui est très impressionnant dans les mémoires de Gaulle, c'est que, d'une certaine manière, le pari est très risqué. De Gaulle n'est pas sur le territoire français durant toute la guerre. Il est dans un rapport de décentrement continuel, en quelque sorte. Ces tentatives pour montrer que la France est déplacée avec lui, ce qui est un pari très risqué, c'est ça qui fait le cœur des mémoires. Et d'où l'importance de ce portrait du maréchal Pétain, qui n'est pas très présent, alors que l'on sait que De Gaulle lui doit beaucoup dans sa carrière, à ses débuts, puisqu'il a été l'homme de plume de Pétain. Donc cette présence relativement cantonnée est évidemment importante. Le but de De Gaulle dans ses mémoires est de montrer que la France s'est déplacée avec lui, qu'il y a une sorte de déplacement, d'abstraction et d'incorporation dans la mission qu'il s'est fixée, dans sa propre personne. Le trésor national, l'autorité nationale s'est déplacée avec lui. C'est ça qui est tout à fait essentiel, c'est que ce portrait, on le voit très bien, et c'est toute sa dimension rhétorique, n'a pas de but historique au sens d'une exactitude historique. On se situe au niveau de ce que Malraux, précisément dans l'extrait précédent, appelait le destin. C'est un destin qu'il faut décrire, et ce destin est précisément l'inverse même de celui de Gaulle. C'est un contre-modèle qu'il est en train d'esquisser.
On est frappé en même temps quand on lit ces pages des mémoires de guerre et aussi des mémoires d'espoir qui sont restées interrompues. On n'a qu'un volume et quelques chapitres à cause de la mort de Gaulle en 70. On est frappé du fait que tout n'est pas rationnel. Il y a une dialectique subtile entre la raison et l'émotion, entre la gravité, ses adversaires diront une certaine pompe, et l'humour aussi. C'est ce qu'essaye d'ailleurs d'éclairer Maurice Schumann, qui a été son compagnon à Londres, porte-parole de la France libre, et qui commande de la sorte au micro de Pierre Dumayet en octobre 1959 la publication du dernier tome des mémoires de guerre du général de Gaulle.
Il y a un premier type de mémoire, c'est les mémoires d'outre-tombe. Chateaubriand se campe pour la postérité. Il y a un deuxième type de mémoire, c'est les mémoires de Churchill. Churchill est encore dans la vie, est encore dans la politique, il espère jouer un rôle et il se situe par rapport à ses contemporains. De Gaulle est dans la situation de Churchill, c'est-à-dire qu'il est non seulement sur l'avant-scène de l'histoire, mais qu'il continue à la faire, qu'il continue à la sculpter. Et cependant, il prend le ton et le recul de Chateaubriand, il ne s'exprimerait pas autrement s'il avait écrit pour être lu par ceux qui naîtront après sa mort et même après la nôtre.
Et du style, peut-on dire qu'il est de l'homme même?
Ah, le style, oui. Le style est assurément de l'homme même. Il est de l'homme même d'abord par un trait assez curieux et que seuls les familiers, puisque vous avez bien voulu employer ce mot tout à l'heure, connaissent, et qui est ce que j'appellerais l'humour du général. Il m'est impossible, dans le temps qu'il nous est imparti, de m'attarder sur le récit du séjour en Russie. Le moment, par exemple, où Staline ayant dit au général de Gaulle « Je comprends la difficulté de votre tâche, la France est un pays difficile à gouverner », « Oui, répond le général de Gaulle, je cite de mémoire, très difficile à gouverner, d'autant plus que je ne peux pas recourir à vos procédés, vous êtes inimitable. Je dois dire que j'aurais donné cher pour entendre le général de Gaulle dire à Staline « Vous êtes inimitable ». Et puis alors, il y a ce premier aspect du style, mais il y en a d'autres. Il y a aussi ce qu'on a appelé la solennité, qui contraste évidemment avec l'humour, mais qui est peut-être, dans une large mesure, la précision d'esprit et l'art de dominer la matière qu'on a malaxée et abroyée en l'ordonnant. J'ai relevé à la lecture quelques phrases particulièrement frappantes et frappées. Il parle à un moment donné d'une vague d'adhésion populaire qui donnait au problème l'apparence d'être simplifié, et il ajoute « Sans doute l'était-il en effet dès lors qu'ils en avaient l'air. » Il parle à un autre moment, la formule est sobre tout en étant juste assez lyrique pour s'accommoder de cette sobriété. Il parle des amants inconsolables, de la défaite et de la collaboration.
Il me semble, je ne sais pas si vous me rejoindrez, Jean-Louis Janel, qu'un des traits de ces mémoires de De Gaulle, c'est que, même s'il y a des passages qui apparaissent comme très sculptés, pour ne pas dire drapés, il y a aussi, toujours près d'affleurer, ce sens de l'humour, comme dit Schumann, ou peut-être ce sens du cocasse, qui me paraît très important dans sa personnalité.
Oui, tout à fait. Peut-être même de ce qu'on pourrait appeler le farfelu, qui est un thème inventé par Malraux précisément.
Le royaume farfelu, le premier ouvrage de Malraux, oui.
Absolument. Et ce farfelu est un trait, effectivement, de l'écriture gaulliste. C'est très important parce qu'il y a une continuité de l'autorité ou de la grandeur du style sublime, un petit peu qui est celui de De Gaulle. Et puis, cette espèce de petite musique derrière, qui est celle du farfelu, et une autre qui me semble encore plus importante et qui, moi, me frappe, lorsque j'ai découvert les mémoires de De Gaulle, assez tard, je les ai découverts dans un cadre strictement universitaire, d'ailleurs, c'était
intéressant. Mon pauvre, vous l'avez attendu si longtemps ?
Oui, tout à fait. Ça a été l'importance des émotions et l'importance des larmes. On pleure beaucoup dans les mémoires de De Gaulle, ce qui est très impressionnant. De Gaulle ne cesse de mettre en scène les hommages qui lui sont rendus, les entrées dans les villes libérées, les défilés, et jusqu'au grand défilé, donc le dernier, celui...
Pleure de joie, dit-il à propos de lui-même.
Continuellement.
Il parle pleure de joie, dit-il à propos de lui-même.
Voilà. Cette présence des pleurs, cette présence des émotions feintes parfois chez ses alliés, par exemple, les diplomates ou les hommes politiques qui l'entourent, mais véritables et importantes dans les foules avec lesquelles il est en contact et celles des Français qui l'entourent lorsque la France est libérée, cette présence des émotions, c'est quelque chose de tout à fait étonnant, tout à fait surprenant.
Une émotion bien calculée, dit-il quelque part.
Oui, à propos des diplomates qui l'entourent, effectivement, ou de celles de l'entourage de Churchill, dont il se méfie beaucoup, bien sûr. Comme si sa guerre, c'est peut-être l'une des choses aussi très étonnante dans ces mémoires, c'est qu'on a l'impression que la guerre, véritable guerre de Gaulle est toujours diplomatique. Elle est contre les alliés ou contre ses alliés de l'intérieur, communistes ou autres, et puis ses alliés américains ou anglais.
Donc, un autre trait qui frappe et que vous soulignez dans vos réflexions, Jean-Louis Janel, c'est le fait qu'il parle de lui-même à la troisième personne, comme faisait César dans ses commentaires. Oui. Le rapprochement n'est pas indu.
Non, absolument. Il est voulu, il est pensé, je pense, de la part de De Gaulle, bien sûr. C'est peut-être le signe le plus manifeste de ce désir d'abstraction de soi, d'incorporation de l'autorité, de ce qu'il appelait lui-même le trésor national, et la formule est évidemment importante, de cette autorité dont il se fait en quelque sorte le porteur, le transmetteur. C'est un point essentiel, bien sûr, puisque cette capacité à se dédoubler en quelque sorte, exactement comme dans la théorie historique du double corps du roi, c'est-à-dire cette capacité à faire de sa personne ce qu'il appelle le pauvre moi, ce qui n'est pas un trait de modestie, absolument pas, bien sûr, de sa part, mais simplement à oublier sa vie privée, sa vie personnelle au service de ce destin dont il est porteur. C'est l'un des éléments essentiels. Et du coup, ce recours, ce trait stylistique du recours à la troisième personne, cette désignation continuelle de soi-même par ce biais, cette formule de Gaulle... De
réfracté dans le regard des autres.
Voilà, et cette façon de se voir aussi à travers le regard des autres, tout à fait. Et le regard embué des personnes qui l'entourent, c'est un point tout à fait important.
Schumann esquisse un parallèle avec Churchill, dont on vient, par parenthèse, de rééditer des mémoires de guerre dans une nouvelle et excellente traduction due à François Kersoudi. Quel parallèle vous-même feriez-vous entre ces deux mémoires ? Churchill a révisé, a gouverné ses mémoires, mais il ne les a pas directement écrits lui-même, semble-t-il.
Non. Alors, il y a beaucoup de points qui les opposent. En même temps, ce sont deux textes qui ne peuvent se lire que de façon complémentaire, de façon parallèle. Churchill écrit tout de suite après la guerre, immédiatement après la guerre, alors que De Gaulle va mettre un certain temps. Et beaucoup de textes vont paraître avant ceux de De Gaulle, d'une certaine manière. Et il s'écrira par-dessus tous ces textes. Churchill écrit tout de suite, mais il fait écrire une première version à partir de souvenirs qu'il a dictés. Il fait écrire une première version par tout un groupe de proches. proches d'hommes, non pas d'hommes de plume, mais de ses plus proches collaborateurs, retravaille cette version, envoie le texte à toutes les personnes qui ont été concernées dans son entourage,
dont
les responsables politiques, dont De Gaulle, afin de demander des compléments, des vérifications, l'apport de documents. D'ailleurs, l'un des points importants, c'est que la plupart des documents vont être versés dans le récit, lettres, mémorandums, etc., alors que De Gaulle prendra bien soin de les exclure de son récit, bien
sûr.
Les rejeter en annexe. Et surtout, c'est un point absolument essentiel, Churchill, lorsque le texte est écrit, il prendra beaucoup de temps, ce sera une somme immense, énorme, envoie à chacune des personnes concernées le texte pour censure, en quelque sorte. Ce que jamais, bien sûr, De Gaulle ne ferait. Ce serait impensable. Les deux textes sont les plus proches dans la façon dont ils sont écrits, dans la grandeur, dans les responsabilités qui ont été tenues par leurs auteurs, et en même temps les plus opposés dans leur manière, dans la manière dont ils sont écrits. Churchill se veut avant tout historien. Il travaille comme un historien, travaille son style aussi, et la traduction de François de Kersaudy rend vraiment hommage au style de Churchill, qui est vraiment très bien, mais n'est absolument pas dans cette espèce de rapport, alors non pas individualiste, mais très personnel, qui est celui de Gaulle. Lui seul est capable d'écrire son texte. Aucune personne n'y a accès avant la publication du texte final. Il y a là un rapport très opposé, une sorte de fabrique, exactement comme Richelieu pouvait le faire, par exemple, une fabrique des mémoires dans le cas de Churchill, et un texte peaufiné, écrit très lentement, travaillé très difficilement par De Gaulle, et où De Gaulle est seul en scène, seul face à l'histoire.
Donc vous nous dites qu'en somme, l'existence de nègre, au moins provisoire, n'est pas absolument incompatible avec le prestige, le succès, la réussite des mémoires au sens où vous les saluez.
Absolument, et c'est l'un des points les plus importants, c'est peut-être aussi l'un des éléments qui l'opposerait à l'autobiographie. La singularité des mémoires, c'est qu'il y a une sorte d'alliance entre une autorité et une auctorialité. C'est-à-dire une autorité préalable, qui est celle de votre statut social. Vous écrivez des mémoires parce que vous avez tenu des responsabilités, parce que vous avez été témoin, comme le disait Furtière. Donc il y a une autorité préalable qui conduit à un acte d'autorialité, c'est un acte d'écriture. Mais d'une certaine manière, vous pouvez très bien être considéré, et Jacques Chirac le fait d'une certaine manière, être considéré comme mémorialiste, alors que votre texte a été rédigé par un autre, en grande partie tout du moins.
Si Jacques Chirac le dit avec honnêteté,
c'est l'excellent
collaborateur Jean-Luc Barré
qui
a pourvu.
Bien sûr, son nom est marqué, est indiqué comme l'un des auteurs de ce texte. Donc c'est quelque chose de très bien, ça ne se faisait pas auparavant. Ça s'était fait pour quelques-uns. Donc cet élément est important parce que ça ne vaudrait pas pour l'autobiographie. Dans les mémoires, c'est l'autorité personnelle du statut, du parcours, des actions accomplies qui prévaut en quelque sorte sur l'acte d'autorialité, même si bien sûr, et c'est le cas chez De Gaulle de façon éminente, cette autorialité, cet art d'écrire est évidemment l'un des traits les plus caractéristiques. De Gaulle est De Gaulle par son style, et ça a été rappelé bien sûr par Schumann, très bien analysé par lui.
À propos de Nègre, vous savez, c'est assez anecdotique que les mémoires de Maurice Thorez, le patron du Parti communiste, ayant été rédigés par un nègre qui s'appelait Jean Fréville, ce nègre ou un autre, je ne sais pas, qui était peut-être un sous-nègre, avait mis dans le livre une phrase tout à fait étrange et qui faisait tâche par rapport à l'ensemble, où il décrivait une nature un peu étrange. Et si on reprenait le début de chacun des mots ainsi juxtaposés, on pouvait lire, première lettre, on pouvait lire Fréville, acrostiche, Fréville a écrit ce livre.
Absolument.
Venons-en maintenant à ce qui est une de vos démonstrations dans votre livre, c'est-à-dire que le genre des mémoires politiques a retrouvé de la vigueur grâce à la Seconde Guerre mondiale. Au fond, les époques, comme disait Peggy, sont plus favorables que les périodes à l'écriture de mémoires de ce type. Et vous distinguez dans la suite de Gaulle ou contre lui un certain nombre de familles de mémorialistes plus ou moins bien inspirés, mais qui ne vous paraissent pas tous indignes de figurer dans la cohorte des auteurs de livres importants dans ce genre que vous décrivez.
Dans le cas de ces familles, c'est évidemment la famille gaulliste essentiellement et la famille communiste. Les choses sont complexes. C'est plutôt l'effet de masse qui me semble important. C'est le fait que, Pierre Nora l'a montré très bien, ce qui distingue le gaullisme du communisme, c'est que le communisme est une aventure collective, un projet collectif, alors que le gaullisme est un projet qui a été initié par un homme et qui est tenu, en quelque sorte, soutenu, porté par lui et par son projet. Alors, à la disparition de De Gaulle, au moment de la disparition de De Gaulle, il a été important pour tous ses proches qu'ils aient participé à la guerre ou qu'ils aient été ministres de Gaulle, de perpétuer cette histoire. Et à travers leur mémoire, et c'est le cas de Michel Debré par exemple, de continuer à raconter cette histoire, de raconter, d'utiliser cette figure qui est celle de Gaulle, de perpétuer l'acte d'affiliation en quelque sorte à la figure de Gaulle, pour entretenir une fidélité et une sorte d'aura autour de... aura qui tenait beaucoup à l'écriture de ce texte. Donc la pratique des mémoires était une sorte d'obligation presque, de devoir de mémoire, et une façon de perpétuer, d'entretenir l'effet qui était celui des mémoires de guerre de Gaulle, qui relève d'une sorte de texte, ce qu'on pourrait appeler un texte efficient, c'est-à-dire un texte qui a un effet sur la mémoire collective des Français. Dans le cas des communistes, les choses sont très différentes, puisque c'est une sorte de travail d'entretien, de réparation, on tente de colmater en quelque sorte une mémoire qui a été extrêmement vivante dans les années 20, 30 et jusque dans les années, et après la guerre, les années 40, 50, et qui, avec la déstalinisation, craque de partout. Donc l'écriture de mémoire, il y a une fonction là aussi essentielle, sont donnés de textes très très grands, les textes les meilleurs, c'est ça qui est absolument essentiel, et Debré, Régis Debré l'a dit, les textes les meilleurs sont les textes d'ex-communistes, de renégats, d'apostats, et de personnes qui en quelque sorte trahissent la mémoire communiste, il y a une mémoire
PPC
officielle.
PPC, pour prendre congé, comme dit Vercors.
Oui.
Alors il y a une troisième famille de mémoires nées de la guerre, ce sont les mémoires des souvent commencés en prison, oui. Des collaborateurs, des vichistes, dont certains sont loin d'être négligeables. Je pense par exemple au grand talent d'un homme qui a été très loin de la collaboration, comme Jacques-Benoît Méchain.
Le grand succès de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les décombres de Rebatet, qui sont des mémoires, et qui ont un succès absolument extraordinaire. D'ailleurs, Daniel Cordier en fait l'une de ses lectures les plus enthousiastes au départ, et ensuite critique petit à petit au fur et à mesure qu'il avance dans la guerre et dans la prise de conscience et dans la critique, l'autocritique de son appartenance à l'action française.
Vous faites allusion au très beau livre qui vient de paraître, qui d'ailleurs a été couronné par plusieurs suffrages, celui de Daniel Cordier, qui s'appelle alias Caracalla.
Ce qui me semble important avec Cordier, c'est qu'il y a vraiment un réel renouveau, un texte important historiquement, mais surtout créatif littérairement. Et c'est ça qui me semble tout à fait génial. L'idée extraordinaire de Daniel Cordier, c'est de s'obliger à l'exactitude en réinventant un journal qu'il n'a pas pu tenir, puisqu'il était secrétaire de Jean Moulin, donc dans la Résistance, et il était impossible, évidemment, de tenir jour par jour notation de ses activités, ça aurait été exposer ses camarades. Daniel Cordier a cette idée extraordinaire de réinventer un journal en admettant, c'est un procédé qu'on peut juger factice, mais qui est admis, qui est posé, un procédé posé comme tel dès le départ.
Très efficace.
Et très efficace, parce que son récit en devient, on réadopte le point de vue qui est celui de l'individu pris dans le combat, ne connaissant pas toute la difficulté des mémoires, c'est cette espèce de prévision du passé continuelle. On écrit les mémoires dans une perspective qui est celle de la rétrospection, on connaît l'issue, on connaît la fin, et donc tout semble déjà gagné par avance.
Donc ce n'est pas une chronique, vous ne limitez pas cet ouvrage de Cordier à la définition d'une chronique, mais non, vous l'exaucez, vous l'élevez au niveau de mémoire
au niveau
politique,
de véritable mémoire historique et politique, parce qu'il y a une reconstitution extraordinaire de la mentalité qui est celle de la France à cette époque, mais aussi des débats et des différents courants de la résistance. Mais ce qui me semble important, c'est cette capacité à renouveler le genre des mémoires par le biais, par exemple, du journal, d'un faux journal. Et donc, cette capacité à donner une sorte d'urgence à son récit, grâce à ce procédé, à nous resituer au niveau de l'action telle qu'elle se déroule, avec toutes les inconnues qu'elle comporte, et donc tous les risques qui sont ceux d'un jeune homme qui évolue énormément. Parce que c'est ça la valeur des mémoires de Cordier, c'est que cette guerre est pour lui une révolution personnelle. Le passage de l'action française à laquelle il appartenait en son jeune temps, il a 17 ans, au tout début, vers un républicanisme, vers une acceptation du modèle républicain.
Mais par là, est-ce qu'il ne tranche pas sur le cas de la plupart des mémoires politiques qui tendent, en quelque sorte, rétrospectivement, de bonne foi ou non, le plus souvent de bonne foi, à reconstituer un chemin de façon un peu finaliste ou téléologique, en exagérant ce qui peut conduire à ce qui est arrivé à la fin et dont ils sont éventuellement fiers?
Absolument.
Là, il en va autrement.
Absolument. C'est peut-être la principale limite des mémoires, c'est qu'il y a une sorte d'anachronisme inhérent aux mémoires. On connaît toujours, on raconte depuis la fin. C'est le problème de ce genre, on raconte toujours depuis la fin. Avec Daniel Cordier, on se force à éviter en quelque sorte cette espèce d'illusion, cette volonté de justifier par des intentions qui auraient été en quelque sorte claires. Et De Gaulle est peut-être la meilleure illustration de ça, c'est ce qui fait toute la force de son texte.
Alors, il y a un autre livre qui, tout récemment, a eu un grand succès, un livre de mémoire d'un acteur politique qui n'a pas été dans l'exécutif, mais qui a pesé dans l'histoire des idées. C'est Claude Lanzmann, avec le Lièvre de Patagonie, qui restitue l'univers de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, dont il a été, il le raconte d'ailleurs, comment dire, très proche, notamment intellectuellement et affectivement, ouais. Et qui me conduit pour finir à donner la parole à Simone de Beauvoir, à propos de la rédaction de ses célèbres mémoires, les mémoires d'une jeune fille rangée, la force de l'âge, puis la force des choses.
On m'a demandé quelquefois pourquoi j'avais passé 7 ans à écrire mon autobiographie. Et en effet, elle représente une partie importante de mon œuvre, puisqu'il y a 3 volumes, les mémoires d'une jeune fille rangée, la force de l'âge, la force des choses. J'ai intitulé le dernier volume « La force des choses » parce qu'il va de 1945 à 62. Et à cette époque, depuis la guerre, je me suis rendu compte de l'importance que les circonstances avaient dans le déroulement d'une existence, alors qu'auparavant, je croyais que ma vie était une histoire que je me racontais. Cette histoire, donc, est la suite de la précédente. À vrai dire, dès que j'ai commencé La force de l'âge, après les mémoires d'une jeune fille rangée, j'étais décidée à raconter ma vie à peu près jusqu'au moment où je me trouve actuellement pour l'écrire. Mais je me suis arrêtée à la libération de Paris parce que j'avais besoin, en quelque sorte, de reprendre mon souffle, étant donné que La force de l'âge était déjà un volume très long. Et je voulais savoir aussi comment le public l'accueillerait. Parce que d'une certaine manière, ça me semblait assez outrecuidant de tellement parler de moi. Et j'ai vu que, dans l'ensemble, mon récit avait beaucoup intéressé et que, par conséquent, il y avait des raisons valables de le poursuivre. Il y en avait aussi certainement de ne pas le faire. Beaucoup de gens m'ont dit, après tout, vous en dites plus long dans vos mémoires que dans votre autobiographie. Du moment qu'on ne peut pas dire absolument tout, d'une certaine manière, on fausse la réalité. Il vaudrait mieux attendre et faire ça quand vous en serez beaucoup plus détaché, beaucoup plus tard. Mais j'ai quand même passé outre, parce que ce que je voulais dire, je voulais que ce soit encore pour moi une expérience tout à fait vivante. Et les souvenirs qu'on écrit à 70 ou à 75 ans, ça peut être charmant, mais ça n'a pas du tout le même caractère, malgré tout aigu, que des souvenirs qu'on prend presque encore sur le vif. Et précisément pour raconter le passage, en somme, d'un âge à un autre, qui est ce qui arrive vers les 50 ans, eh bien, il vaut mieux être encore dedans que d'en être déjà tout à fait sorti.
Simone de Beauvoir s'exprimait ici au micro de Marc Blanpin dans le cadre des entretiens de l'Alliance française, dont Marc Blanpin était d'ailleurs le dirigeant. On est dans le courant des années 1960. Est-ce qu'en écoutant Simone de Beauvoir, vous avez l'impression qu'elle est passée, pour reprendre vos formulations, Jean-Luc Janel, de l'autobiographie à des mémoires où on essaye d'exprimer le suc, le contenu même d'une époque?
Absolument. Et cette tentative est tout à fait inattendue. D'une certaine manière, on ne peut pas imaginer plus éloigné de Gaulle que Beauvoir. Elle n'a aucun mandat, n'a accompli aucun fait durant la guerre, en tout cas, n'a été témoin d'aucun événement historique précis. Et pourtant, ce qu'elle va raconter, et c'est ça qui est extraordinaire chez elle, c'est une sorte de conversion lente, progressive et très lente. C'est d'une certaine manière au moment de la guerre d'Algérie que cette conversion va réellement s'effectuer. Une conversion à l'histoire. Et elle part de la vie de deux petits bourgeois intellectuels, Sartre et elle, au départ, très peu intéressés par la politique, vers deux intellectuels engagés qui sont de véritables figures de leur temps. Donc il y a ce processus de conversion qui montre, chez Beauvoir, une capacité à renouveler, à réinventer autrement le genre des mémoires, se l'approprier pour en faire autre chose.
C'est ainsi que votre gibier grossit et que vous pouvez aller chercher au-delà des hommes d'action, des femmes d'action, à proprement parler, des auteurs de ces mémoires politiques dont vous célébrez le renouveau depuis 1945. Merci beaucoup Jean-Louis Janel.
Merci.
Votre livre s'appelle « Écrire ses mémoires au XXe siècle, déclin et renouveau », Gallimard 2008. Et puis vous avez démontré votre connaissance intime de Malraux, vous avez publié un livre sur lui, « Malraux, mémoire et métamorphose », également chez Gallimard, il y a 3 ans, en 2006. Vous retrouverez toutes ces informations et puis d'autres, ainsi que les références des documents sonores que nous avons utilisés, la chanson de Damien, sur le site internet de France Culture à la page Concordance des temps. Et vous pourrez également réécouter, télécharger cette émission et bien sûr réagir en ligne. Je vous rappelle que cette émission est datée du 19 décembre 2009. La semaine prochaine, toujours en nouvelle diffusion, une émission intitulée « Le peuple endetté sous l'Ancien Régime, les ambivalences du crédit » avec Laurence Fontaine.